présentée ce soir par Isabelle Souquet. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir. Pas de deuxième vague, mais des signaux faibles de reprise de l'épidémie en métropole. On vient seulement de passer le pic en Guyane. Le gouvernement généralise le port du masque pour éviter un reconfinement. L'Europe a la peine pour le plan de relance post-Covid. Au sommaire d'un interminable sommet à Bruxelles. 150 citoyens étaient à Matignon ce matin pour continuer à soutenir leurs propositions au gouvernement sur le climat. Le masque est donc désormais obligatoire dans les lieux publics clos, là où il était simplement recommandé, centres commerciaux, magasins, administrations, banques et marchés couverts, sous peine d'une amende de 135 euros. Une mesure déjà programmée mais avancée devant l'augmentation du nombre de foyers épidémiques. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, précise qu'à ce stade, pas de deuxième vague, mais il y aurait tout de même 4 à 500 foyers de contamination, notamment en Mayenne, en Bretagne et dans le Grand Est. Le Grand Est, où les autorités ont constaté un relâchement. Ils appellent à la vigilance. La directrice de l'Agence régionale de santé, Marie-Ange de Sailly-Chanson, appelle aussi à la responsabilité de tous.
On voit qu'un certain nombre de clusters sont liés à des rassemblements publics ou privés, familiaux. C'est vrai que tout le monde a été confiné, c'est l'été et se voit. Mais s'il vous plaît, respectez les règles barrières, la distanciation. Si vous vous rassemblez plutôt dehors qu'à l'intérieur, il y a quand même une chose que je vois réapparaître et qui est à bannir, ce sont les bises. Arrêtez de vous embrasser, c'est comme ça que le virus est transmis. D'abord, c'est un geste civique de respecter les règles et le masque à partir d'aujourd'hui. Pour les personnes vulnérables, les personnes âgées, leurs proches, on ne sait pas, c'est pas affiché qu'une personne est vulnérable. Elle peut avoir un diabète, une insuffisance cardiaque, un cancer, et ça, vous ne le savez pas. Le deuxième point, c'est vrai que les jeunes font peu d'hospitalisation ou de services en réa, mais ils en font. Donc s'il vous plaît, ne jouez pas à la roulette russe. Vous pouvez vous retrouver en réa, vous pouvez décéder même si vous êtes jeune.
Reportage à Metz de Lucas Valdener. En Guyane, la situation sanitaire s'améliore. C'est ce qui ressort de l'audition d'une délégation d'outre-mer à l'Assemblée cet après-midi. Et on commence aussi sur place à se pencher sur les conséquences sociales et économiques qui s'annoncent encore plus difficiles qu'en métropole. La pauvreté d'une partie de la population rend la gestion sanitaire et sociale de cette crise extrêmement complexe dans le territoire, Adrien Toffolet.
Oui, alors sur le plan sanitaire d'abord, la Guyane compte maintenant 6655 cas de Covid détecté, mais selon l'Agence régionale de santé, qui a maintenant assez de recul sur ces données, le pic de l'épidémie aurait finalement été franchi entre le 3 et le 8 juillet. On devrait pouvoir le confirmer dans les jours à venir en regardant la courbe du nombre de décès. La tension dans les hôpitaux devrait s'amoindrir également, ce qui est une bonne nouvelle car les soignants sont exténués malgré l'arrivée de centaines de renforts de la métropole. Ce constat est le résultat de mesures de freinage de l'épidémie, le confinement assez strict avec des mesures de couvre-feu depuis le mois de mars, le port du masque obligatoire dans les lieux public, ou encore la fermeture et le contrôle renforcé des frontières, notamment avec le Brésil où l'épidémie fait rage. Si la situation se confirme donc, va se poser maintenant la question des conséquences de la crise. Sur le système de santé, déjà très critiqué depuis des années, infrastructures insuffisantes, manque de personnel et de moyens, des millions d'euros ont été dépensés en évacuation sanitaire, ce qui démontre de grands signes de fragilité dans l'hôpital. Conséquences sur les 300 000 habitants également, l'économie est à l'arrêt. Avant la crise, une personne sur deux vivait déjà sous le seuil de pauvreté, avec moins de 550 euros par mois. 40 000 personnes bénéficient en ce moment de l'aide alimentaire, en particulier dans les quartiers dits d'habitat informel, les bidonvilles. Alors aujourd'hui, le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, annonce des déplacements assez longs dès la rentrée, une façon de montrer, comme avec le déplacement de Jean Castex, l'investissement de l'État. Mais élus locaux et associations sur place attendent de voir et rappellent régulièrement, et encore aujourd'hui, qu'en Guyane, comme au moment des grandes grèves de 2017, tout s'obtient toujours dans la rue.
Adrien Toffolet. Après les très nombreuses annulations de festivals cet été, c'est au tour de la fête de l'Huma de jeter l'éponge. Organiser ce traditionnel week-end dans un format réduit et dans les bonnes conditions sanitaires serait trop coûteux pour le journal. Déjà sous la contrainte d'un plan de redressement, des initiatives culturelles et des débats devraient remplacer la fête. Sur le fond des traitements, en Chine, on l'apprend à l'instant, deux projets de vaccins produiraient une réponse immunitaire et l'espoir qui y est attaché. Une étude met en évidence en revanche une augmentation de près de 500% des admissions d'enfants touchés par la maladie de Kawasaki. Et puis côté médicaments, le laboratoire anglais Synergen annonce les résultats préliminaires d'un traitement qui réduirait considérablement le risque de développer une forme sévère. Annonce en fanfare à Londres, mais un produit testé sur une cohorte trop réduite, très réduite de patients. À Bruxelles, les dirigeants européens ont poursuivi cet après-midi leur discussion sur un plan de relance post-coronavirus au quatrième jour d'un sommet marqué par une grande tension et de profondes dissensions. Un plan de 750 milliards d'euros pour tenter de faire repartir les économies européennes. Il y a un esprit de compromis, selon Emmanuel Macron, même s'il y a eu des moments très tendus et en dépit de la perspective d'autres moments qui seront sans doute encore difficiles. Les dirigeants européens concrètement butent toujours sur le montant des subventions qui pourraient être accordées et que les États frugaux souhaitent voir réduits. Ils ne s'accordent pas non plus sur l'exigence d'un strict respect du principe de l'État de droit. Qu'il y ait finalement accord ou pas, ces divisions et ces atermoiements vont laisser des traces dans les opinions publiques européennes, estime Sébastien Maillard, le directeur de l'Institut de l'Or.
Tout dépendra du résultat final qu'on aura à l'issue de ce sommet, mais c'est évident que ces sommets qui voient des chefs de gouvernement se diviser, s'envoyer parfois quelques invectives, comme on le lit dans la presse ensuite, ça laisse des traces dans les mémoires collectives des peuples concernés. Et ça, il faut après du temps pour réparer cela. Les marchés... Je crois pas, parce que les marchés financiers ont plutôt fait le pari depuis le début qu'il y aura un accord. Et d'ailleurs, ils misent là-dessus. C'est pour ça que l'euro, même pendant ce week-end, on a vu son taux s'apprécier. Enfin, il n'y avait pas de difficulté là-dessus. Mais dans les opinions nationales et la façon aussi dont les chefs d'État et de gouvernement sortiront de ce sommet et la façon dont ils le raconteront, ça peut beaucoup jouer de la façon dont on appréciera le résultat. S'ils arrivent à se féliciter mutuellement d'être arrivés à un accord commun et d'avoir une relance collective et de montrer qu'ils se sont serrés les coudes, peut-être que ça peut un peu effacer les dommages des débuts. Si inversement chacun vient en disant « je me suis battu, j'ai gagné, j'ai réussi à faire baisser à tel niveau, j'ai réussi à ce que mes lignes rouges soient respectées et que je montre que j'ai eu ma bataille », c'est très dommageable dans l'opinion publique des autres pays qui ont l'impression d'avoir été floués. Et ça c'est important aussi, c'est une responsabilité politique des chefs d'État et de gouvernement que de jouer collectif aussi à la sortie du sommet.
Sébastien Maillard de l'Institut de l'Or, des propos recueillis par Marie Vienno. Une délégation des 150 citoyens de la Convention sur le climat à Matignon ce matin et Jean Castex et Barbara Pompili veulent tenir la cadence. De premières mesures réglementaires seront annoncées la semaine prochaine, un projet de loi pour la fin de l'été et l'examen du texte débuterait dès 2021 à l'Assemblée. Les citoyens vont continuer à être associés aux travaux, première réunion fin juillet avec des parlementaires, des représentants de collectivités locales, des partenaires sociaux. 146 des 149 mesures proposées ont été retenues par le président de la République. Elles concernent aussi bien le logement, l'alimentation, l'artificialisation des sols ou les transports. Il s'agit maintenant de passer des propositions à l'action, a tweeté Jean Castex. Un souhait unanimement partagé à la sortie de Matignon. Reportage Véronique Reberotz.
Cyril Dion, un des garants de la Convention citoyenne sur le climat, est le premier à quitter Matignon. Le Premier ministre a promis de passer à l'action. Qu'à cela ne tienne, Cyril Dion.
Il est fidèle à sa réputation de vouloir rentrer dans l'exécution et ça me paraît être plutôt un bon signal. Je lui rappelais que le Grenelle de l'environnement avait aussi fait beaucoup de bruit avec beaucoup d'annonces et qu'on avait eu finalement assez peu de résultats et que l'idée n'était pas de repartir dans un processus similaire.
Vacances bousculées car première réunion de travail dès la semaine prochaine. Grégoire Frati, un des 150 citoyens de la Convention climat, sera là pour défendre leur position et les accompagner autant qu'il le faudra.
On avait besoin de produire un programme citoyen qui devienne un bien commun et dans ce cadre-là, c'est un peu un devoir de responsabilité qu'on a d'accompagner nos mesures parce qu'on ne veut pas qu'elles soient dévoyées, dénaturées, appropriées par certains et pas par d'autres et qu'à partir du moment où ça devienne un débat politique, on en perde la nature. On n'est pas là pour voir qu'est-ce qui peut passer, qu'est-ce qui ne peut pas passer. Nous, on défend 149 propositions. 146 ont été validées par le président de la République et maintenant on va travailler avec le gouvernement sur ces 146 propositions, pas 145, pas 140, 146.
Contact établi avec la ministre de la Transition écologique, le début d'un travail basé sur la confiance, promet Barbara Pompili.
On a vraiment installé une relation de confiance et pour moi cette confiance elle m'oblige. Elle m'oblige à faire en sorte que quand on aura fini le processus, enfin ce processus va durer longtemps, mais qu'ils soient fiers de ça et que je puisse attirer avec eux.
Un rendez-vous de travail est programmé entre citoyens et ministres d'ici la fin du mois.
C'est une interview qui fait réagir dans Le Parisien ce matin. Carlos Ghosn proteste une nouvelle fois de son innocence et se dit maltraité par l'État français. Et tout cela alors que Renault continue de traverser une zone de turbulence avec des ventes en baisse. Les déclarations de l'ex-grand patron n'ont pas tardé à faire réagir les syndicats. Fabien Gache est délégué CGT chez Renault.
La première chose qu'on peut constater, c'est que la situation ne lui a rien appris. Il considère être toujours au-dessus des lois, des pays respectifs dans lesquels il a été amené à travailler, à évoluer ou en tout cas à circuler. La deuxième chose, c'est qu'il fait là aussi totalement abstraction de la stratégie qu'il a mise en place chez Renault depuis 2004 et qui a conduit Renault dans l'impasse, hein, c'est-à-dire avec une baisse des ventes de la gamme Renault, avec une délocalisation, externalisation, jusqu'à un point qui nous semble aujourd'hui critique. C'est quand même assez regrettable qu'à aucun moment ce personnage puisse s'interroger sur les dégâts sociaux qu'ont conduit toutes les décisions qu'il a prises pour aux seules fins des intérêts des plus gros actionnaires.
Des propos recueillis par Hakim Kasmi. Fini le journalisme, il a franchi le Rubicon, ce sont ses propres termes, selon lui-même. Donc Laurent Geoffrin vient de lancer son mouvement « Engageons-nous ». Son objectif, englober et dépasser les formations de la gauche historique, rien que ça. L'ancien directeur de Libération veut s'appuyer sur la société civile dans ce mouvement. Alors mouvement et non pas parti politique, il faut vraiment retenir ça, Maxime Fayol.
Et oui, c'est même encore plus délicat que cela, puisque Laurent Geoffrin parle d'une association sans entrer sur ces acteurs de la société civile.
Je crois que les partis classiques ont du mal à évoluer eux-mêmes. Ils ont du mal à créer des idées nouvelles. Donc il faut que ça vienne de la société, de l'extérieur. Moi j'essaye de fédérer ces gens dans la société qui sont engagés déjà, qui font plein de choses, mille choses. Essayer de les fédérer pour en tirer des projets qui vont ensuite aboutir à un projet global de transformation sociale, écologique, républicain à l'échelle nationale pour 2022. Sans cette coalition, sans ce projet, je pense que quel que soit le candidat, il sera battu.
Alors le nom de François Hollande comme candidat potentiel, comme homme providentiel caché derrière Laurent Geoffrin est beaucoup revenu. Un nom qui n'est pas d'actualité selon l'ancien journaliste.
Aujourd'hui, il n'est pas en situation, hein, je vous le dire. Et demain, qui le sera? Vous ne le savez pas et moi non plus. En plus, franchement, honnêtement, c'est pas la question. Ouais, j'ai réuni 140 personnes, je ne vais pas leur dire on va voter pour Tartampion ou du genou. Ils vont voter pour qui ils voudront.
Un candidat qui, il l'affirme, ne sera pas lui, mais qui devrait être choisi parmi la gauche historique. Comprenez, Jean-Luc Mélenchon ne sera pas le bienvenu, même s'il a quelques bonnes idées, concède Laurent Geoffrin. Le processus va en tout cas prendre du temps. Une convention constituante est attendue d'ici 6 mois afin d'y voir plus clair, tant sur le projet que sur le casting.
Maxime Fayol. L'autorité de la concurrence condamne Google à 150 millions d'euros d'amende pour abus de position dominante sur le marché de la publicité en ligne. Il lui est reproché aussi des règles opaques qui ne respectent pas la concurrence. Google fait appel de la décision. Les bouchons ne sont pas réservés à la route des vacances. Cette année est bien chargée en mission vers la planète Mars. Pas moins de 3 missions s'élancent d'ici la fin du mois, si tout va bien. Et il y aurait dû y avoir en plus l'européenne ExoMars, reportée à l'année prochaine. La mission Hope des Émirats Arabes Unis a décollé la nuit dernière du Japon. Les deux autres, chinoises et américaines, attendent la bonne fenêtre météo. À la Cité de l'Espace, à Toulouse, on a organisé aujourd'hui une journée martienne pour le grand public. Et les spécialistes toulousain de la planète rouge était au rendez-vous, Stéphanie Glézis.
La mission Emirati Hope arrivera à destination l'an prochain pour le cinquantenaire des Émirats Arabes Unis. La mission chinoise doit aussi atteindre Mars en 2021 pour le centenaire du Parti communiste chinois. Enfin, la mission américaine Mars 2020, à la fin du mois, va encore faire de la science à distance. Parmi les instruments de la mission, la Super Chemcam, collaboration franco-américaine, Sylvestre Maurice de l'IRAP à Toulouse, l'un de ses concepteurs.
Curiosity a montré l'habitabilité de la planète. Eh bien, on va une étape plus loin, finalement. Y a-t-il des traces de vie? C'est-à-dire, est-ce que l'habitabilité a permis la naissance de quelque chose qui devrait ressembler à des bactéries dont on a encore la trace. Donc c'est très compliqué. Donc notre véhicule va explorer, étudier et puis prélever des échantillons, les encapsuler en quelque sorte, les déposer au bord du chemin. On enverra des missions du futur aller les chercher.
L'actuel rover Curiosity qui roule sur Mars a eu des problèmes de pneus. Les roues du rover Perseverance ont donc été renforcées. Il atterrit directement dans un lieu intéressant pour la chasse aux fossiles. Jérémy Lassu, astronome adjoint de l'IRAP.
Et au centre de ce cratère, depuis l'orbite, on a pu voir que qu'il y avait un dépôt deltaïque, un peu comme ce qui se passe au niveau du delta du Rhône, si vous voulez. Donc ce qui prouve qu'il y a eu une rivière qui a coulé là, avec un lac. Et ça, ce sont des endroits sur Terre où on a beaucoup de chances de pouvoir conserver des fossiles.
Cerise sur le gâteau, plutôt sur le rover, les ingénieurs de Super-Héros ont prévu un micro sur Persévérance pour aider les scientifiques à comprendre les roches qui sont visées. Un autre micro a été ajouté par les ingénieurs du CNES pour écouter, lui, les vents de Mars.
Sur la Terre, l'été sera chaud, ensoleillé et orageux demain sur les reliefs avec des températures de 10 à 20 degrés le matin, des maximales de 19 à 33 degrés et une pointe jusqu'à 37 en Gascogne.